Bah avec Mathieu au Tiger Mountain, au l'espace professionnel, c'est la première fois que nous y sommes pour les bars en trance.
Normalement c'est les chiottes et les camions, là c'est cool.
Là c'est cool, avec au Tiger Mountain qui a sorti récemment Sing Suzy. Je pense qu'on peut déjà tous te dire félicitations pour ce premier album qui fait suite donc à un EP qui avait déjà pas mal marché. Est-ce que tu peux, avant de parler de justement de cet album, visiblement il y a une légende autour de au Tiger Mountain, Springsteen, festival, un tigre, accident de voiture. Est-ce que la légende est vraie?
Si elle vous plaît, elle est vraie.
Bah, on est habitué à recevoir des bios pourris et celle-ci, elle est bien faite en tous les cas.
Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir. Vraiment. Non, mais c'est important pour moi qu'à partir du moment où tu fais un truc, tu vas jusqu'au bout et du coup, moi j'aime bien travailler avec des gens. Pas forcément pour la musique, mais pour tout le reste, les pochettes, les machins. Et je me suis dit, pour envoyer des histoires, quitte à raconter une histoire, je vais demander à quelqu'un qui sait raconter des histoires. Et donc, quelqu'un qui me connaît très bien et qui a raconté une histoire.
Bah alors, l'histoire de Mathieu et l'origine de Au Tiger Mountain, est-ce que tu peux quand même nous en parler? S'il ne s'agit pas de Springsteen, elle vient d'où?
En fait, c'est quelque chose qui est venu au Tiger Mountain, c'est quelque chose qui est venu tout seul, hyper naturellement, à un moment donné où j'ai eu une expérience de groupe assez longue, sans dépasser ma région, quoi, ouais. On va dire. Et où finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, j'avais déjà un ami en fait qui m'a attrapé et qui m'a mis dans un studio pendant une après-midi pour enregistrer 4 morceaux qui traînaient.
Et c'était toi-même,
j'étais tout seul pour faire le truc et puis ça a bien marché et dans le studio et j'ai eu le nom est venu tout seul aussi comme ça un peu magique parce que par contre j'écoutais vraiment que Brian Eno à ce moment-là alors que je fais une musique qui a pas tout avant. Et j'avais le disposé et je trouvais que c'était assez c'était évocateur quoi.
On est d'accord. Et après, pour en venir justement à l'album, pour moi, il y a dans le paysage pop français, il y a beaucoup de choses qui l'ont du côté de l'Angleterre de l'Angleterre, autant le dire. Et moi, je trouve que il y en a deux en France qui, au contraire, vont plutôt du côté des terres un peu rustiques, un peu redneck, de l'Arizona, parfois de l'Oregon. C'est toi et Botti Ball. Je sais pas si tu connais.
J'adore Botti Ball et c'est un mec. En plus, c'est un super mec. Ouais.
Qui lui, par contre, a franchi un cap, il est plus tout seul maintenant.
Ouais, il est plus tout seul, c'est vrai, mais en fait.
Toi non plus, t'es plus tout seul parce que t'as Kit Francescoli qui est avec toi.
Kit Francescoli a eu l'occasion de passer 2 mois à New York, donc je l'ai pas retenu, je l'ai laissé faire. Il m'a pas accompagné aujourd'hui.
Est-ce qu'en revanche, t'as composé avec lui ou t'étais déjà tout seul pour l'album?
Non, j'étais tout seul. L'album, c'est un truc hyper particulier, c'est que. De la même manière que je suis allé en studio, en fait, après, je me suis acheté de quoi travailler tout seul. Et en fait, j'ai appris à me servir de tout ça.
Donc les loops, les enregistrements.
Enregistrer à la maison, tout seul, quoi. Et du coup, j'ai voulu que le disque garde le truc du mec qui apprend. En fait, à la fois sur le disque, j'apprends à me servir d'outils techniques. Et j'apprends aussi à me servir de ce que je peux faire en termes de composition, etc. C'est-à-dire que sur l'album, il y a des morceaux qui sont enregistrés sur des cassettes, il y a des morceaux qui sont enregistrés sur des 2 pistes à bande. Il y a des trucs que j'ai fait avec des ordinateurs aussi parce que je commence à apprendre à m'en servir. Et j'ai tout fait tout seul. Donc c'est un processus.
D'où les morceaux qui sont assez aérés aussi, qui laissent beaucoup d'espace, des sons, des sonorités cradoc à droite à gauche qui traînent.
Pour en revenir justement à l'album et au paysage, quand je te dis de paysage rustique, on pourrait se dire qu'un Marseillais est quand même loin de tout ça. C'est justement que l'imaginaire de Au Tiger Mountain lorgne du côté de ces terres-là.
Ouais, enfin, en fait, c'est pas conscient, mais c'est juste que je pense que c'est un truc qui est un peu imprimé presque malgré moi, quoi, parce que on fait que la musique qu'on peut faire, quoi. Donc moi, le truc que je sais faire, c'est ça, alors que j'écoute plein de trucs, tu vois, j'écoute des trucs anglais et tout, et l'Oregon, effectivement, a eu un impact sur moi hyper violent quand j'y suis allé quoi. Ça a été un truc où ouais, je me suis pas mal reconnu dans pas mal de lieux et des j'ai visité, des gens que j'ai rencontrés.
Bah, Chamik, tout à l'heure, disait de parler de pistes aérées. Tu disais que tu avais enregistré l'album de manière assez différente. Ça pouvait être sur un deux pistes, sur un ordinateur. Et ça se ressent parce qu'il y a des morceaux qui sont vraiment différents. Je parlais de pop, c'est vraiment un grand mot parce qu'il y a aussi justement de la folk, mais il y a des morceaux qui sont très différents entre Love Behind, des BXL, je crois que c'est 1995 aussi. Tout cela est complètement différent.
Ouais, oui, bah, vraiment, c'est. En fait, peut-être parce que du fait que ce soit un espèce de premier album comme ça, je me suis dit que c'était pas gênant en fait de voir un peu tous les endroits où je pouvais aller éventuellement à un moment donné. Donc effectivement, ça va du truc de guitare-voix avec un son tout crapoc à un truc hyper spatialisé avec des boucles, avec des sons électroniques, avec des choses comme ça. Parce que voilà, je voulais un peu mettre les choses à plat. C'est un disque qui avait aucune autre ambition que de vraiment raconter voilà, pendant ce que j'avais fait de ma vie pendant, on va dire, 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, maintenant ça me permet de resserrer et j'ai réussi. Maintenant je suis vers une synthèse de tous ces trucs-là pour la suite.
Oui, mais en même temps, ça n'empêche pas que l'album soit hyper homogène. Tout se tient bien. Et en temps hyper émouvant, hyper primaire au niveau des sentiments, je trouve.
Ouais, parce que je pense qu'il y a. Il y a une part de tout ça qui... Enfin, c'est vraiment de l'ordre du quotidien en fait. Donc on n'est jamais pareil d'un jour à l'autre. C'est pas. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas un morceau de funk et puis un morceau de métal, quoi. C'est pas. Il y a une espèce d'atmosphère parce que c'est un mec tout seul et du coup. Moi j'avais en tête, il y a des disques qui sont pas forcément des disques de mes disques préférés, mais qui sont des disques un peu composites comme ça. Il y avait Deus, il faisait vachement ça plus maintenant, quoi. À une époque, c'était vraiment une barre under the sea, c'était un truc où voilà, ça tapait dans plein de trucs différents. Le mec il faisait vachement ça aussi, des albums où t'allais voilà, à droite, à gauche, y regarder. Et là, ces derniers temps, c'est vrai que je recentre vraiment ça autour du minimalisme. Des compositions un peu old school mais avec un son un peu dans l'espace, quoi.
C'est ça qui est intéressant parce que justement c'est aussi pour moi un des principaux défauts de la scène française, c'est que généralement ce sont des compositions qui sont très riches, très denses, et toi ton son est riche mais en revanche il en faut peu pour des compositions de Haute Aiga Mountain. Elles sont très épurées.
Bah c'est ouais, ça c'est un truc vraiment auquel pour l'instant je m'attache et qui va évoluer parce que je vais voilà, le groupe va probablement évoluer parce qu'il faut faire d'autres choses, mais c'est vrai que sur cette période-là, en ce moment, c'est vraiment ce qui m'a préoccupé, c'est de voir, tu vois, de retirer des choses et de voir jusqu'à quel point ça tient debout, en fait. Tant que ça tient debout, on continue d'enlever des bidules jusqu'à avoir vraiment l'espèce d'ossature, quoi.
C'est peut-être le plus dur aussi à faire en musique, d'épurer justement, de trouver... faire la musique avec les silences.
Oh, ouais, voilà. Et je me suis dit, si comme première contrainte, je m'impose de laisser du vide et de prendre le risque que, voilà, ben, si c'est... Faut avoir confiance dans la chanson, je serai à même plus tard de savoir comment rajouter, quoi. Parce que pour l'instant, je savais pas le faire. Ouais. J'ai essayé, je savais pas le faire, donc il a fallu trouver autre chose.
Alors en revanche, justement, il y a eu une addition, pas pour cette période-là de 2 mois, puisqu'il est parti visiblement outre-Atlantique, mais pourquoi avoir fait le choix de mettre un batteur, et en l'occurrence Kid Francescoli?
Bah, parce qu'en fait, il est pas vraiment batteur, et Kid Francescoli, et donc déjà, moi, c'est un ami, et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la musique à Marseille, on fait pas mal de choses ensemble, et c'est un mec qui joue de tous les instruments et qui n'est virtuose avec rien. C'est-à-dire qu'il fait vraiment... il sait faire les choses, mais il sait pas faire trop de choses. Et du coup, c'est très bien parce qu'il peut voilà, jouer un peu de clavier, faire un peu de percussion, faire un peu... là, on est en train de mettre des guitares dans les pattes, faire des choses comme ça, et on n'est que deux. Et on est vraiment deux potes... Et ça va au-delà de la formation groupe, puisque lui, il a son groupe et tout. Donc quand on est tous les deux, on se met tous les deux dans le truc. Voilà, c'est les chansons, c'est au Tiger Mountain. Il n'y a pas d'ego. Et je trouve que pour le minimaliste comme ça, c'est important que tu sentes une relation forte entre deux personnes à l'œuvre. Et du coup, on arrive à faire ce qu'il y a sur le disque, c'est-à-dire le minimum.
Il y a quelque chose qui est assez... moi, je suis très heureux pour toi parce que ça allait très vite, notamment en termes d'impact médiatique, d'impact presse. Il y a également une sélection au Fair 2012. Ce côté institutionnel de la musique qui permet de soutenir un projet, c'est important?
C'est... ben, disons que c'est là. C'est là. Donc, à partir du moment où c'est là et qu'on te le propose, c'est con de refuser. Après, moi, je respecte aussi pas mal d'artistes avec qui j'ai pu parler aussi, qui se positionnaient un peu contre ça, notamment sur les scènes noise, les scènes garage, etc., qui sont vraiment pas des gens là-dedans. Mais voilà, quand on te le propose, c'est cool. Et moi, en fait, le projet a grandi en étant aidé par une salle de Marseille, qui était déjà un espèce de truc d'accompagnement, etc., un peu institutionnel. Et finalement, c'est une bonne éducation au paysage français de ce genre de choses. Et il vaut mieux être au courant de ce qui se passe et de comment ça se passe. Donc je suis toujours très content quand on vient m'aider, quoi.
Alors après, de suite à ton voyage dans l'Oregon, donc tu as fait cette musique, il y a plein de choses qui t'ont inspiré. Est-ce que justement tu n'aurais pas envie de faire un espèce de road trip pour faire vivre ta musique, comme peut faire par exemple Old Seeds en Europe? Je ne sais pas si tu connais cet artiste, voilà, qui se voyage comme ça juste pour vendre et faire partager sa musique.
Bah, honnêtement, c'est vrai que ça se rapproche d'une espèce de truc auquel je me rattache, mais ce qui est bizarre, c'est que moi je le fais en France. Et c'est encore plus étrange pour l'instant parce que, par exemple, c'est la première fois que j'ai un Rennes. Et je ne dis pas pour jouer de la musique, c'est la première fois que je viens à Rennes. Voilà.
C'est cool.
C'est super cool, mais vraiment super cool. Hein. De toute façon, c'est bizarre. Hein. Mais après, on trouve toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Mais du coup, quand je me barre vraiment loin du sud, j'ai toujours l'impression que c'est vraiment cool. Tu vois ? Et je suis allé jouer à Roubaix, à côté, ouais, là, à Lille. Et, ouais, c'était vraiment cool aussi. Non, mais du coup, je visite mon pays. Et c'est vrai, je suis assez fier de ce truc-là aussi. De me dire, bon, ben. Là, en ce moment, c'est important que, voilà, que tu connaisses le pays dans lequel tu vis. Et puis, parce qu'après, aller faire un trip aux États-Unis, j'aimerais bien faire quelque chose de classe, quoi. Donc, depuis quelques années, j'aimerais bien y aller, mais faire quelque chose de classe. Là-bas.
Ça veut dire quoi, dans ce cas-là, de t'entourer d'un décorum, de déjà d'être rodé sur scène?
Et puis, je sais pas, tu vas pas... après, moi, je voudrais y aller en étant vraiment prêt, quoi, avec un truc. C'est vrai que t'as ce complexe, petit complexe d'infériorité, quoi. Puis, y aller en me disant, ça, c'est bon, là, je peux y aller, quoi. Y a pas une virgule de ce que je fais où j'ai pas fait, tu vois, t'as toujours le doute, mais ça je l'ai mis là, c'est bon, c'est bientôt.
Bon, je le souhaite. Tu joues ce soir donc au Papier Timbré dans le cadre des Bars en Trance. On va pas déjà parler du deuxième album parce que justement il va y avoir un temps de rodage sur scène. On va te souhaiter de faire le plus de dates possible. Simplement un mot pour la Ferra Rock, qui est un réseau de radio qui a 20 ans maintenant. Il y en a une à Brest, on a une à Rennes, il y en a partout en France, à Tours, à Limoges. Est-ce que tu peux souhaiter un joyeux anniversaire à Ferra Rock?
Bon anniversaire, Ferra Rock.
Merci, Mathieu.
Merci.